Regard SACEM, le podcast. Point de vue de créatrice et de créateur.
Donc je m'appelle Alexandra Grimal, je suis saxophoniste, compositrice et chanteuse. Je fais des musiques que j'espère totalement décloisonnées, qui vont originellement du jazz à la musique contemporaine pour des pièces pour orchestre symphonique ou pour ensemble de musique contemporaine, mais aussi des pièces de pop pour voix et électro. Et voilà, je suis aussi passée par un certain jazz traditionnel et beaucoup par la musique improvisée. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais très petite, parce que dans ma famille, il y a une espèce de dynastie obscure de musiciens. Donc il y avait un amour de la musique infini de tous les côtés de ma famille, et surtout on baignait dans l'écoute des disques, que ce soit de la musique classique, de la musique contemporaine, les Beatles, des musiques du monde, des musiques traditionnelles. Enfin, je crois que mes parents n'avaient pas de limites dans leurs goûts musicaux. Donc c'est grâce à eux que mon frère et moi étaient immergés dans la musique. J'ai commencé à écrire de la musique très très jeune, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à écrire, à composer. Et vers l'âge de 12 ans, j'ai choisi le saxophone parce que voilà, c'était le jazz. Mon père écoutait beaucoup de jazz. C'était un symbole de liberté. C'était la nuit, c'était l'improvisation. C'était la révolution, un peu, la revendication. C'était un espace très libre. Et donc, très très tôt, à 13 ans, j'ai dit à mes parents que j'allais être saxophoniste professionnelle, mais ça faisait qu'un an que j'en faisais. Et dès mes 13 ans, je me suis mise à travailler pour être saxophoniste de jazz. Donc après, il s'est passé beaucoup plus de choses que prévu, puisque je chante et je compose beaucoup. J'ai eu la chance de ressentir profondément que c'était mon destin. J'ai eu la chance de vivre des contes de fées. Je suis allée aux États-Unis. J'ai rencontré des très très grands musiciens, j'ai partagé et je partage la scène avec des gens que j'admire beaucoup et qui m'inspirent énormément. Il a fallu prouver, et il faut toujours d'ailleurs prouver peut-être des milliards de fois plus que les hommes. Et à la fin je me suis dit, mais c'est fou parce que j'ai tellement prouvé, qu'est-ce qu'il faut encore que je prouve pour... Mais bon, je sais que c'est difficile pour les hommes aussi et j'ai la chance de travailler avec des hommes incroyables aussi, qui travaillent à cette reconstruction des femmes, en fait, enfin, juste de leur construction professionnelle, même pas leur reconstruction. Et aussi avec des femmes exceptionnelles qui m'ont passé des commandes très sérieuses en me faisant confiance. Il y a beaucoup de gens qui ont eu, beaucoup de programmateurs de festivals, qui ont vraiment réparé plein de choses à plein d'époques et qui m'ont permis de créer, parce que c'est ça surtout dont un artiste a besoin. C'est d'avoir l'espace pour créer et la confiance et le soutien des gens alentour pour que ça se partage avec le plus grand nombre. Alors les moments charnières de ma carrière, oui, il y en a beaucoup. Alors je suis partie quand j'avais 18 ans étudier aux Pays-Bas avec un immense saxophoniste qui s'appelle John Rocco. Saxophoniste américain merveilleux qui a changé ma vie, surtout qui m'a secouée comme un prunier et qui m'a dit qu'il fallait que je sois très ouverte parce qu'on ne peut pas avoir une seule vision de la musique. Donc ça, c'était très fondateur pour moi. J'étais en master à La Haye, au Conservatoire Royal. Je suis rentrée au CNSM de Paris, mais j'étais très déçue. Alors je suis partie au bout de 2 mois, mais j'ai rencontré Dre Palmaerts, qui est un formidable batteur belge, qui était professeur là-bas, avec qui j'ai beaucoup joué, et c'était une rencontre vraiment fondamentale pour moi, parce que tout de suite, il est venu jouer avec moi. J'ai rencontré, à cette époque-là, Nelson Veras et Joseph Dumoulin à Paris. Je m'étais réinstallée à Paris. Et ça m'a construit. Ce sont des musiciens qui m'ont vraiment construit. Ensuite, je suis partie au Canada, au Banff Center for the Arts, pour une résidence de composition. Et là, c'était extraordinaire. Donc, je suis revenue ensuite là-bas et je suis partie m'installer à New York. Où, donc là, j'ai fait mon disque Owlstalk avec Lee Konitz, Gary Peacock et Paul Motion. Ça m'a permis de revenir en France avec un autre disque. Enfin, j'ai fait aussi deux résidences de composition à la McDowell Colony aux États-Unis, qui est la Villa Médicis américaine. J'ai osé, grâce au soutien des équipes là-bas, créer mon langage, enfin commencer à synthétiser tout ce que j'avais étudié. Et donc après, je suis rentrée en France et grâce à tout ça, j'ai commencé à travailler en France. Et j'étais contente de pouvoir travailler dans mon pays. J'ai une chaîne et j'adore mettre un disque dans une chaîne. Je suis un dinosaure. J'avoue, j'ai plus de plaisir à ouvrir un boîtier, à lire un livret, à avoir l'objet dans la main, ou des vinyles aussi. J'ai de quoi lire des vinyles. J'adore le support aussi. Je trouve qu'il y a une magie. Mais bon, peut-être que c'est l'ancienne génération qui doit se dire « Allez, mise à jour, il faut... » Mais j'ai du mal à écouter sur mon ordinateur. Je le fais quand j'ai vraiment pas le choix. Et Over Mountains, mon dernier double album qui est enregistré par Céline Granger, qui est une merveilleuse ingénieure du son, qui a enregistré beaucoup de mes disques. Je n'ai pas pu le sortir en physique pour l'instant, et j'étais un peu triste de ça, mais je préfère qu'il sorte et qu'il existe dans le monde en numérique, en digital. Mais c'est vrai que je suis encore très attachée au support. J'achète parfois des disques d'artistes que j'aime dans des concerts ou... La question du support, c'est une vraie question pour les artistes. Je pense qu'il faudrait mettre en place, mais ça se fait maintenant dans les écoles, un soutien, des interventions de la SACEM, des sociétés de droit pour informer les artistes qui sont tout à fait prêts à se faire complètement arnaquer, quoi. C'est compliqué. C'est vraiment des sujets, le support qui mériterait beaucoup d'accompagnement chez les jeunes artistes et même chez ceux qui sont un peu plus âgés. C'est difficile quand on est artiste de devoir tout faire parce que maintenant on doit faire aussi, tout le monde le sait, hein, la communication, la production. Et c'est vrai que toutes ces questions d'administration, de monter des sociétés, des associations, c'est pas évident de se former à tout et de continuer en même temps à faire une musique de qualité. Je compose beaucoup, donc j'ai cette chance aussi d'avoir cette source de revenus en tant que compositrice. Moi, j'ai eu un enfant qui est très jeune encore, donc j'ai un petit peu arrêté de tourner pendant quelques temps. Maintenant, je recommence parce que mon enfant grandit, donc les concerts, je recommence à jouer avec beaucoup de joie aussi, après le confinement, etc. Et à composer, à avoir des commandes, donc voilà, les commandes, les droits d'auteur, les concerts, encore bien sûr les disques qui restent, tant qu'il y en a. Et moi, depuis l'année dernière, j'enseigne la composition. Je suis professeure de composition, mais j'enseigne aussi l'improvisation et l'ensemble à la Haute École des Arts de Berne, en Suisse. J'aime beaucoup être en contact avec la jeune génération et il y a une émulation extraordinaire parce que c'est une école qui est très, très, très décloisonnée, très ouverte, très expérimentale. Donc, j'enseigne aussi la musique contemporaine à des masters de composition. J'ai des ensembles qui jouent la musique de Tom Johnson, des compositeurs qui n'ont absolument rien à voir avec le jazz. Et donc, je suis dans une situation très hybride là-bas. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, en fait, c'est une des activités qui entre dans le jonglage avec les concerts et la composition. Je m'attends à beaucoup de mutations dans mon métier, oui, parce que moi, j'ai toujours une vie déjà qui mute énormément, puisque j'ai fait beaucoup plus de choses que ce que je pensais faire à la base, qui m'ont toujours surprise et de nouveaux projets étonnants. Oui, je me prépare pour l'imprévu, bien sûr aussi économiquement, puisqu'on va vivre des temps nouveaux, déjà ça se complexifie, et puis l'évolution de la société va nécessiter je pense aussi beaucoup plus d'entraide, beaucoup plus de collectif, beaucoup plus de pensées communes. Je pense qu'il y a beaucoup de systèmes à inventer pour pouvoir traverser économiquement. Et puis il y a des nouvelles musiques à créer, des nouvelles formes. Le monde est en mutation, pas que pour des bonnes choses, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de très bonnes choses qui vont advenir et qu'on a beaucoup à apprendre. Et oui, je me réjouis, j'ai très envie de travailler, bien sûr. Je pense que ce qui manque en France, fondamentalement, c'est l'intérêt pour les autres et la curiosité et le décloisonnement. Et il y a trop de chapelles, donc les gens ne peuvent pas se fédérer pour créer de nouvelles formes tant que ces chapelles sont perpétuées. On n'a pas de limite dans notre imagination pour inventer des nouvelles formes. Il faut juste peut-être arriver à se rapprocher du public pour partager la musique avec le plus grand nombre, mais pour sortir des sentiers battus au niveau des formats. Voilà.
Vous venez d'écouter le podcast du Regard SACEM. Entretien réalisé par Pascal Bertin. Plus d'infos sur regard.sacem.fr.